BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot sur BFM Business. C'est une entreprise qu'aujourd'hui vous connaissez tous et qui fête ses 10 ans. Doctolib, qui est parvenu à devenir un incontournable aussi grâce à ce que l'entreprise est parvenue à mettre en œuvre en interne pour retenir les talents. Nous serons avec son DRH dans un instant. Dans cette émission, on répond aussi aux questions de nos auditeurs, Jeanne.
Questions que vous nous posez sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On appelle aujourd'hui l'avocat Mathieu Valence pour une question sur l'arrêt maladie.
Avez-vous déjà été victime de quiet hiring, cette fâcheuse tendance que les employeurs ont de ne pas remplacer les salariés qui s'en vont? Ce sera l'objet de notre focus dans cette émission. Sans oublier en fin d'émission, la carte blanche de Lucie Carbone. On va faire la connaissance du manager qui devient coach. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
DRH d'une entreprise qui va fêter son 10e anniversaire. Bonjour Mathieu Birac.
Bonjour.
Merci d'être là, vous êtes le DRH de Doctolib. Et pour vous, Doctolib n'a pas de secret, hein, parce qu'en réalité vous êtes DRH depuis le tout début. Ouais. C'est ça ? Depuis la création de l'entreprise il y a 10 ans, c'est vous.
Presque depuis le début, moi ça fait 7 ans que j'ai rejoint l'entreprise.
Bon, j'imagine que donc c'est une entreprise que vous connaissez comme le fond de votre poche. Vous l'avez vu grandir en même temps que nous en fait, les utilisateurs.
Oui, c'est ça. En fait, alors effectivement, ça fait 10 ans que Doctolib a été créé en 2013. On a toujours la même mission, juste pour rappeler, hein, l'objectif de Doctolib, c'est d'améliorer le quotidien des professionnels de santé et de permettre aux patients d'être en meilleure santé. Et donc, on fait ça avec des logiciels qu'on commercialise aux professionnels de santé. Et c'est ça qui leur permet de mieux traiter leurs patients, d'avoir plus de temps et de gagner plus d'argent.
Et avec des talents derrière, parce que vous êtes aussi complètement même en charge de la gestion de ces ressources humaines. Des ingénieurs, beaucoup, des profils qui sont très recherchés aujourd'hui. L'objectif, c'est d'avoir les meilleurs chez Doctolib.
C'est ça, ou en tout cas, je dirais, les plus adaptés à nos missions, à ce dont on a besoin. Aujourd'hui, Doctolib, c'est 2800 collaborateurs. Mmh. On est présent en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. Et comme vous le disiez, on continue de recruter, notamment sur les fonctions techniques. Il y a énormément d'innovations à amener sur le marché. Donc, on a toujours cette ambition de recruter les personnes qui vont être les mieux à même de travailler pour nous et de les retenir ensuite.
On est en plus dans le numérique, dans une industrie qui est très mouvante. Ouais. En ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle conversationnelle. C'est des choses aussi que vous allez développer là, prochainement ?
Alors, il y a énormément d'enjeux. C'est vrai que la tech est un secteur très concurrentiel. C'est difficile d'attirer les talents et de les garder. Et l'idée, c'est que de plus en plus, les talents vont regarder, ils vont avoir une vue 360 des enjeux de rétention, pas uniquement sur la rémunération. Donc, l'idée, c'est d'avoir un environnement qui leur permette de s'épanouir, de se développer et de se former sur des nouvelles technologies et aussi sur des nouvelles façons d'appréhender leur métier finalement.
Je me demandais si c'est plus facile de retenir les talents quand on est soi-même depuis longtemps dans l'entreprise où ça fait 7 ans.
Je dirais que c'est un peu des deux. C'est vrai que moi, ça fait tellement longtemps que je suis là qu'il y a peut-être des choses que je vois plus. Donc c'est vraiment les deux. C'est vrai que on essaie d'avoir une continuité, une cohérence de ce qu'on fait. On a une culture qui est la même depuis le début et qu'on essaye de chaque année revitaliser. Et donc c'est un peu des deux.
C'est toujours une start-up, Doctolib ?
On se pose pas vraiment la question en ces termes-là. Je dirais que on continue à avoir besoin de grandir, besoin d'innover. Il y a plein de problèmes à résoudre. Et je dirais que dans ce sens-là, on se définit encore comme une start-up, mais je dirais une start-up mature.
C'est combien de salariés aujourd'hui ?
C'est 2800 salariés.
Bon, c'est quoi l'ingrédient secret, s'il y en a un, pour retenir ces salariés, retenir les talents, faire en sorte que dans une industrie, justement, dans la tech, où il y a beaucoup de turnover, où on reste rarement 10 ans dans la même entreprise aujourd'hui, on garde les cerveaux?
Ouais, alors si j'avais le secret, je le donnerais pas. Ouais. Mais ce qu'on essaye de faire, nous, en tout cas, c'est travailler sur la cohérence. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, pour retenir les gens, la politique salariale ne suffit plus. Mmh. Donc, on essaie d'avoir une approche à 360 sur le sujet, qui est basée sur notre culture, nos valeurs, et qui en fait s'articule autour de 4 points que je vais donner rapidement. C'est notre mission, c'est-à-dire pourquoi, notre raison d'être en fait. Doctolib, ça fait 10 ans qu'on existe, on est une entreprise à mission, on travaille dans la santé. Ensuite, c'est toute l'intention qu'on met à construire une équipe sur le long terme. Donc toutes les politiques internes de bienveillance pour que les employés se sentent bien. Le troisième élément, c'est une approche très entrepreneuriale de ce qu'on fait. Tous les employés d'Octolib sont actionnaires de la société. C'est très important pour nous. Et je dirais le quatrième pilier, c'est le fait qu'on soit une entreprise apprenante où on permet aux gens d'apprendre tous les jours.
Vous parliez du salaire en commençant par dire que c'est plus aujourd'hui l'argument central. C'est même parfois plus une question qu'on pose dans un entretien. Combien ça va me rapporter ?
Alors c'est vrai que de plus en plus, c'est une question qui arrive à la fin. Je dirais que les employés recherchent de plus en plus un alignement entre un poste, une entreprise, une mission, leurs propres valeurs, avant de chercher des dimensions salariales et de rémunération finalement. Ouais.
C'est vrai que, et c'est de plus en plus le cas dans les jeunes générations, les moins de 30, 35 ans.
Ouais, ouais. Beaucoup plus.
Vous, entreprise à mission, ça, on pense forcément à ce qui s'est passé en 2020, la pandémie, le Covid. C'est ça aussi qui a fait que les salariés de Doctolib se sont sentis plus utiles que jamais?
Ouais, je pense que ça a été un vrai tournant pour nous. Encore une fois, depuis le début, on a la même mission, mais c'est vrai que là, on a eu l'occasion de montrer à toute la France comment la technologie pouvait être mise au service de l'intérêt général. Et donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est que au tout début de l'année 2020, on a dû réorganiser l'entreprise. Il y a des centaines de salariés qui ont changé de métier pour pouvoir permettre la mise en place des centres de vaccination et la vaccination à l'échelle du territoire.
Il n'y a pas eu de vague de départ après le Covid, comme il y en a eu beaucoup dans un très grand nombre d'entreprises, dans les grandes villes aussi, où certains ont eu besoin d'autre chose.
Oui, alors paradoxalement, c'est vrai que ça a été un moment où les gens ont beaucoup plus travaillé chez Doctolib, mais en fait, le taux d'engagement a augmenté pendant cette période-là. Ce qui peut paraître contre-intuitif, mais en fait, on était tellement au cœur de notre mission et tellement au cœur de ce pourquoi Doctolib existe, que les gens ont été plus engagés. Alors on a eu beaucoup de réflexions sur la question du télétravail, mais finalement les gens qui ont vécu cette période-là sont encore aujourd'hui chez nous et sont très engagés dans la mission de Doctolib.
Il faut pour vous savoir bien gérer aussi l'hypercroissance, parce que c'est une entreprise pleine d'ambition qui continue de grandir. Comment vous positionnez là-dessus?
Alors c'est une bonne question. Ce qui est vrai, c'est sûr que c'est difficile pour des individus de grandir aussi vite que des organisations. Parfois une entreprise va à doubler taille, tripler taille chaque année. C'est très difficile personnellement d'arriver à faire ça. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les gens, on les forme, on leur permet de prendre le temps. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que chaque employé doit avoir au moins 2 heures par semaine dédiées à l'apprentissage. Et donc on investit concrètement dans la formation des managers. Par exemple, on a plus de 600 managers chez Doctolib. Plus de la moitié de ces managers sont des managers pour la première fois. Des bébés managers.
Et donc on les... Ils ont quel âge?
25, 26, 27 ans, 28 ans. Et donc on les forme, on les accompagne au métier du management, qui est un métier qui est passionnant mais compliqué.
D'un mot pour terminer, mais sur le bien-être, donc on a, je crois que c'est celle de la Doctolib Academy, voilà, pour la formation des jeunes managers. Qu'est-ce que vous mettez d'autre en place pour le bien-être des salariés? On parle beaucoup aujourd'hui de le congé parental, par exemple. Est-ce que, typiquement, bien sûr. Deux trois exemples,
deux choses. Congé parental. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en plus des dispositions légales sur le congé maternité et le congé paternité, on a décidé de les rallonger. Donc concrètement, le congé maternité chez Doctolib, il a été rallongé de 4 semaines. Le congé paternité de 2 semaines. Et ensuite, les gens qui nous rejoignent après un congé longue durée vont pouvoir reprendre leur travail dans le cadre d'une semaine de 4 jours. C'est-à-dire que si je suis une femme, je reviens de congé maternité, j'ai une semaine de 4 jours, ce qui me donne le temps de me réorganiser.
Et ça, c'est complètement aussi en train de se développer, la semaine de 4 jours dans les entreprises. Mathieu Birac, DRH de Doctolib. Il nous reste 1 minute pour mieux savoir quel DRH vous êtes. Maria nous amène tout de suite la boîte du DRH. Je vous invite à piocher 2 papiers. Vous allez voir, ce sont des phrases à compléter.
Ok.
Et vous répondez spontanément, bien sûr. Hein, faut pas réfléchir pendant 5 minutes.
Alors, dans ma boîte, je recherche des candidats qui sont motivés et qui ont envie de contribuer à l'intérêt général.
Ouais, qui ont une expérience déjà.
Pas forcément. Moi, j'avais pas l'expérience que nécessaire pour faire mon métier, et pourtant j'ai réussi à le faire. Donc on cherche surtout des gens qui sont motivés et qui ont envie de contribuer à l'intérêt général.
Le coup de cœur en entretien, ça existe? Avoir un coup de foot pour un candidat?
Ça peut exister. Après, on essaie d'avoir des entretiens qui sont structurés pour pas laisser trop de place au biais. Ouais. Donc on peut y avoir un coup de cœur, mais on essaye quand même de l'étayer avec des questions, avec un vrai process quand même.
Allez, on tire un dernier papier. Reprenez pas le même.
Non. Alors,
dans ma boîte,
je m'oppose. Ça c'est une bonne. Je m'oppose à toutes les discriminations. On travaille beaucoup sur le sujet chez Doctolib. On fait beaucoup de choses sur la question des travailleurs handicapés, sur aussi la place des femmes dans la tech, dans les postes de management. Donc voilà, c'est un vrai cheval de bataille. Il y a encore plein de choses à faire.
Merci d'avoir joué le jeu et merci d'avoir été notre invité, Mathieu Birac, DRH de Doctolib. Tout de suite, Jeanne appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on appelle tout de suite Mathieu Valence, avocat en droit social, pour répondre à cette question d'un patron qui nous dit « Mon salarié est en arrêt maladie et travaille auprès d'un autre employeur, puis-je le licencier ?»
Eh bien, il faut distinguer deux hypothèses. Si pendant son arrêt maladie, le salarié va travailler pour une entreprise non concurrente, l'employeur ne pourra pas le licencier, à moins de démontrer l'existence d'un préjudice, mais autre que la simple absence du salarié ou éventuellement le paiement d'un maintien de salaire. En revanche, si le salarié va travailler pour une entreprise concurrente, là, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté, ce qui va justifier son licenciement. Donc on le voit, la jurisprudence est tout de même assez souple vis-à-vis du salarié. Pas question non plus pour l'employeur de licencier le salarié qui va exercer une activité bénévole pendant son arrêt maladie ou, le cas échéant, partir en vacances, comme on peut le voir dans certaines situations. Que pourra faire l'employeur ? L'employeur va pouvoir procéder à une contre-visite médicale par le biais d'un organisme indépendant, et si l'organisme indépendant considère que cette visite, que l'arrêt initial n'est pas fondé, dans ce cas-là, l'employeur pourra informer la CPM et cesser le versement du maintien de salaire.
Merci Mathieu Valence, avocat en droit social. Continuez à nous écrire sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Jeanne, on passe à la suite. Vous savez que si vous décidez, Jeanne, de quitter BFM Business, mais que vous n'êtes pas remplacé et qu'on demande de faire votre travail, vous savez comment ça s'appellerait ?
Du quiet hiring.
Exactement. Mais vous partez pas, Jeanne, vous restez avec nous.
Non, je reste avec vous.
Vous restez avec nous dans Happy Boulot. Et on parle justement du quiet hiring tout de suite dans notre focus du week-end.
Happy Boulot, le focus RH.
Bonjour Sabrina Kemel.
Bonjour.
Avocate en droit du travail associée au cabinet FTMS Avocat. Vous allez nous aider à y voir plus clair sur ce sujet du quiet hiring. Et face à vous, Pierre Monclos, bienvenue.
Bonjour Erwan.
Un autre DRH, DRH de Youno, organisme de formation en ligne. Vous êtes aussi auteur de Startup Scale-up Licorne réinvente les RH chez Youno. C'est à paraître le 18 octobre. Ça regroupe 50 interviews, c'est ça, de DRH et de patrons.
Oui, c'est un an de travail pour regarder ce que font de spécifique les startups et les scale-up en matière de RH, parce que avec les croissances qu'elles ont connues, ouais, elles ont dû fonctionner différemment des manières traditionnelles dans tous les domaines, en formation, en recrutement. Et donc avec Michel Barabel, qui est directeur de l'exécutif Master RH à Sciences Po, on a fait une enquête quantitative et qualitative pour décrypter et rendre accessible à tous, même aux entreprises traditionnelles.
On va regarder ça quand ça sortira avec beaucoup de curiosité, Pierre Monclos. Je commence avec vous, puisque vous êtes DRH justement, et cette question elle s'adresse aussi au côté ressources humaines dans les entreprises. Est-ce que déjà vous connaissiez ce mot ? Parce qu'on peut connaître le phénomène de ne pas remplacer un salarié qui part, en fait, de rajouter du travail à un salarié qui est déjà dans l'entreprise, sans forcément d'ailleurs le rémunérer davantage. Le quiet hiring, on commence là à mettre des mots sur un phénomène qui existe depuis peut-être longtemps.
Qui existe depuis longtemps, mais qui s'est accentué. Je pense que c'est pour ça que ça a un nom. Je ne sais pas si c'est Google qui lui a donné ce nom, parce que c'est les premiers connus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après 3-4 ans, où dans les startups et les scale-up, il y a eu des levées de fonds et des plans de recrutement massifs, on est passé à l'ère de la profitabilité plutôt que de la scalabilité. Dans le jargon des startups, ça veut dire qu'il faut avoir des entreprises profitables. Et il y a eu plus de plans de départ que de plans de recrutement, et donc il a fallu faire un moyen contraint. Quand on a quelqu'un, un poste clé qui part, est-ce qu'on va chercher quelqu'un en externe ? Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Ou est-ce qu'on va aller chercher en interne quelqu'un qui est déjà engagé et fidélisé pour le promouvoir à ce poste, même s'il n'en a pas toutes les compétences aujourd'hui ?
Sabrina Kemel, bon, vous êtes avocate. Vous les voyez défiler dans votre bureau, les salariés pas contents. Est-ce que c'est un sujet, ça, chez vous, déjà dans les cabinets d'avocats ? Est-ce qu'on vous parle de ce phénomène ? Est-ce qu'on vient vous voir pour ça ?
Alors, figurez-vous, Erwan, que quand vous m'avez gentiment invité sur votre plateau, je me suis un peu renseignée auprès de mes clients qui ne sont pas les salariés, mais les employeurs. Donc, c'est plutôt les employeurs que je vois défiler plutôt que les salariés. Et parmi les employeurs, beaucoup m'ont dit ne pas connaître justement ce phénomène.
Ouais.
Mais parce que beaucoup ont aussi recours au recrutement en externe. Parce que les clients du cabinet sont notamment des grands groupes. Je pense que c'est peut-être un phénomène qu'on voit davantage dans les start-up, vous voyez, plutôt que dans les grands groupes. Après, quand je m'y suis un peu plus intéressée, parce que c'est quand même un sujet qui est assez intéressant, quand j'ai creusé, effectivement, je me suis demandé si c'était pas un phénomène qui existait déjà. Et en discutant avec Pierre juste avant d'ailleurs le plateau, je me suis dit, pour moi ça existait déjà. Et en réalité, Pierre me disait que oui et non, parce que là on propulse à des niveaux, à 2-3 niveaux au-dessus, des personnes qui n'ont pas forcément les compétences. Donc c'est aussi un risque pour l'entreprise. Il y a un risque réel, parce que moi, forcément, comme je suis avocat en droit du travail, je me dis comment on se sécurise.
Mais
comment
l'employeur se sécurise. Ça dépend, Sabrina, si on tire vers le haut, effectivement, ou si on tire vers le bas. Si on va demander à un salarié de faire des missions qui sont peut-être bien en deçà de ses compétences. Ça doit exister aussi.
Alors, c'est ce que moi j'appelle dans mon jargon une rétrogradation. Mais donc, oui, ça existe sous la forme d'une rétrogradation, et il faut l'accord du salarié d'ailleurs, parce que c'est une sanction disciplinaire qui demande l'accord du salarié. Donc, moi je le vois plus positivement, si vous voulez. Je pense que c'est plutôt par le haut, on les tire vers le haut. Mais qu'est-ce qui se passe si le salarié n'est pas aux attentes?
Voilà. Ou s'il le subit.
Ou s'il le subit, parce que ça peut être aussi une charge de travail en plus, et donc créer de l'anxiété pour lui. Vous voyez, donc moi, il faut absolument que les employeurs puissent mettre une sorte de période probatoire, pas une période d'essai, une période probatoire, au cas où le salarié ne réussit pas, n'est pas aux attentes, il repasse au poste où il était antérieurement.
Non, mais il y a le sujet aussi de la rémunération, non, Pierre Manclot, parce que attribuer des compétences supplémentaires à quelqu'un qui est déjà dans la boîte, sans lui donner le salaire qui va avec, c'est quand même le problème du quiet hiring, justement, qui est soulevé.
Alors, quand c'est fait comme ça, oui, soit on officialise que c'est une grosse évolution, et là, la question du salaire se pose, soit, et c'est pas une bonne pratique en RH, je ne trouverai pas un DRH qui assume cette pratique publiquement, pour ceux qui la pratiquent, bah oui, en fait, on va élargir un peu le périmètre, et en fait, on donne des nouvelles responsabilités sans le dire, ce qui fait qu'on n'a pas posé la question du salaire et d'autres
c'est
avantages.
C'est un peu plus éventuels. Sournois, on va dire.
C'est un peu plus sournois. Et là, c'est clairement pas une bonne pratique, et je ne sais pas si c'est réservé qu'aux startups ou pas, mais dès qu'il y a des entreprises qui ont des moyens contraints pour recruter, si elles n'assument pas, elles vont avoir des personnes qui vont se mettre dans d'autres situations, qui vont partir ou qui vont rester, mais qui vont lever le pied en disant non, c'était pas le deal que j'avais avec l'entreprise.
Tu pousses le bouchon un peu trop loin.
Ce qui va favoriser le burn-out, enfin ce phénomène qu'on voit beaucoup au sein des entreprises, le harcèlement moral, le burn-out.
Mais là, avec tous ces schémas, on arrive dans une entreprise où on n'a plus trop envie de travailler, quoi, au bout du compte. Hein.
Oh, je dirais pas.
Hiring, burnout, c'est quand même les red flags qui se dressent.
Oui, qui se dressent. En tout cas, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Après, tous ne sont pas réels, si vous voulez. Moi, je le constate dans ma pratique. C'est vrai que sur 10 dossiers au Prud'homme, on en a 8 hein, qui concernent du burnout ou du harcèlement moral. Sur ces 8. Tous les salariés ne sont pas harcelés, je vous l'assure, mais certains le sont. Et malheureusement, comme beaucoup de salariés maintenant assignent pour de la discrimination, du harcèlement, les conseils prud'homaux, vous voyez, balayent les dossiers alors qu'il y a des victimes réelles de harcèlement moral ou de burn-out.
Et ça témoigne de la culture de l'entreprise. S'il y en a qui font du quiet hiring, c'est un red flag. Il ne faut pas aller dans ce type d'entreprise qui a des pratiques RH et managériales qui sont peu propices à l'épanouissement et qui favorisent les situations de harcèlement, burn-out ou autre.
Pierre Monclos, justement, il y a un instant, Sabrina Kemel nous disait, est-ce que ce n'est pas davantage dans les petites entreprises qui ne sont pas encore complètement bien structurées, qui font de l'hypercroissance et qui donc ont besoin de trouver des talents rapidement, de mettre quelqu'un sur les postes sans avoir le temps de bien recruter? Est-ce que c'est une vérité de dire que c'est plutôt les start-up, les petites entreprises en hypercroissance qui vont avoir recours à ce phénomène?
Ça peut être une vérité pour celles qui n'ont pas les moyens. Parce que quand elles lèvent des fonds, c'est pas grave, elles vont recruter. C'est prévu, 90% des montants des levées de fonds servent à recruter. Par contre, celles qui disent on va faire de l'hypercroissance, mais on n'a pas de levée de fonds, on n'est pas encore rentable, vont être plus tentées par ces pratiques-là que les autres. Donc il y aura les deux cultures.
Bon, pour terminer la séquence conseil sur la minute qui nous reste, qu'est-ce qu'on dit à un salarié qui se retrouve dans cette situation? Discutez avec votre employeur, mettez-vous bien d'accord sur... les tenants, les aboutissants sur le contrat, finalement. J'accepte pas rien à n'importe quel prix avant de dire oui, d'accord, ou non, surtout pas.
Non, mais je pense que pour le salarié, il faut qu'il se sécurise. Donc, via la période probatoire dont je vous ai parlé, comme ça, si ça ne fonctionne pas, retour au poste qu'il occupe.
Mais il faut que ça soit écrit noir sur blanc.
Bien sûr, il faut que ce soit écrit noir sur blanc. Et oui, les paroles, vous savez, ça n'existe pas. Malheureusement, il faut que ce soit écrit. Et puis bien baliser aussi la prise de fonction. Est-ce que ça va occasionner une surcharge de travail ou non? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas une rémunération augmentée? Tout ça, il faut que ce soit transparent. La transparence, je pense que c'est un maître mot. Parce qu'il ne faut pas oublier le climat interne. Vous savez, ça peut aussi créer en interne des jalousies, un climat délétère, parce que vous propulsez certains et puis les autres, eux restent là où ils sont, quoi.
Bon, le mot de la fin pour le DRH face à vous, Sabrina Kemel, Pierre Monclos. Vous, dans votre livre, vous réinventez les RH. Le quiet hiring, c'est typiquement quelque chose qu'il faut mettre de côté, ou au contraire, comme a plutôt tendance à le dire Sabrina Kemel, il faut regarder ça avec prudence. Il faut mettre noir sur blanc ce qui va se retrouver dans, dans ces nouvelles responsabilités. Quels conseils vous donneriez?
Les start-up et scale-up qui sont inspirantes là-dedans, c'est celles qui le font en assumant qu'il va y avoir des évolutions de responsabilité, de salaire, de charge de travail, plutôt qu'en faisant miroiter, et là c'est les mauvaises inspirations, miroiter, mais regarde toutes les responsabilités que tu vas avoir, rendez-vous dans un an, on verra s'il y a un impact sur ton salaire.
Clause de revoyeur.
Exactement.
Merci beaucoup Pierre Monclos, DRH de Youno, auteur de Startup Scale Up Licorne, réinventer les RH. Ça sort au milieu du mois chez Duno. Et Sabrina Kemel, merci d'avoir été avec nous,
merci
avocate en droit du travail associée au cabinet FTMS. Avocat, c'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Et aujourd'hui, avec Lucie Carbone, on fait la connaissance du manager qui a décidé, bah oui, de devenir coach.
Première surprise, je ne suis plus manager, je suis coach.
Et ouais.
Et attention, parce que ça n'a rien à voir. Alors, ce qui change, c'est qu'on a pris la hiérarchie et qu'on lui a cassé les genoux. Bon, vous n'avez pas oublié, la semaine prochaine, on a une grosse rencontre, le COMEX. C'est que des numéros 10. Va falloir répondre présent. Parce que qu'est-ce qu'on joue là? Là, on joue la relégation. Sachez qu'il y a des filiales en province qui n'attendent que nous. L'abonnement Ouigo n'est pas loin. C'est parti pour la petite causerie. Caro, t'es chef de projet, Caro. Numéro 7, c'est toi qui anime le jeu. 90 slides. Stratégie 4-4-2, les PPT. 4 slides de contexte. 4 slides plan d'action. 2 slides de planning. On part pas bien, hein. Carlos, product owner, quand tu sens que les attaquants d'en face te font le pressing, quid des plannings, quid des ressources, quid des budgets, tu subis, Carlos, là. Qu'est-ce que tu fais? Je prends bonne note, on continue. Et là, ça reprend le jeu. Moussa, toi, t'es développeur. Bon, déjà, quand t'as le ballon, y'a personne qui comprend. Quand y'a les attaquants en face qui arrivent pour te torpiller une question UX/UI en pleine lucarne, ne danse pas avec le ballon. Tu prends le ballon, tu gardes le ballon, tu relances. Je n'ai pas de visibilité, on prend le point, clac, ça dégage. Ouais, c'est clair pour tout le monde, y'a des questions, y'a pas de questions, c'est bon, on y va. Allez! C'est super, ça, coach. Allez, allez, qu'est-ce qu'on fait encore là, là? Allez!
Happy Boulot, le labo RH.
Et 4 minutes pour tester l'innovation de la semaine. Aujourd'hui avec vous, Élise Henriet, bienvenue.
Merci.
Vous êtes consultante senior au sein du pôle People et Transformation de Parella. Parella qui accompagne les entreprises dans le déploiement de leur stratégie immobilière. Par exemple, là, typiquement, pour que ce soit très concret, dans l'aménagement des bureaux.
Exactement, ça va être la stratégie immobilière des entreprises et également la conception et la réalisation des aménagements.
Quel type de client?
Oh, ça va être tout type de clients. On a des grosses entreprises comme des plus petites entreprises, tous ceux qui veulent revoir leur stratégie, la conception de leurs espaces.
Donc, aménager des espaces de travail. Aujourd'hui, la demande, elle change. Je pense là récemment, enfin, je veux dire, depuis le Covid, le flex office, le télétravail, on est sur des attentes différentes là, des clients.
Il y a des attentes différentes. Une réflexion vraiment autour des attentes des collaborateurs. Penser nouveaux modes de travail, comment est-ce qu'on veut aménager nos bureaux en fonction de ces nouveaux modes de travail et des attentes des collaborateurs.
Vous avez créé un jeu de plateau qui s'appelle Bonne Bulle pour accompagner notamment au flex office, hein, donc ces nouvelles méthodes de travail, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus
avec
ce jeu?
Principalement flex office, mais pas que. On a aussi des clients qui vont se questionner sur comment est-ce qu'on vit dans nos espaces post-Covid, notamment avec le télétravail, des gens pas toujours sur site. Donc nous, on les accompagne pour définir leurs grands principes de vie dans leurs espaces.
Ça va servir aussi à peut-être mieux vivre dans les open space, parce que l'open space, il est souvent critiqué encore. Hein. C'est vrai que ça fonctionne pas toujours partout, parce que c'est très bruyant, parce que c'est parfois mal organisé. vous accompagnez, vous aussi, vous aidez à mieux les employeurs à mieux organiser tout ça, grâce aussi au côté ludique.
Je dirais pas à mieux organiser, c'est comment est-ce que eux souhaitent travailler dans ces espaces. Et donc, on va réunir des collaborateurs autour de ce jeu pour les amener à discuter sur comment on vit dans ces espaces. Vous parliez de l'open space, notamment un des défis qu'il va y avoir, ça va être, j'ai un coup de fil, comment je le gère quand je suis dans l'open space? Je le prends à mon poste, est-ce
que
je sors?
J'ai des collègues qui doivent écouter cette émission, il le faut.
On peut faire le jeu chez vous après.
Volontiers, vous allez nous en donner un exemplaire. C'est vrai qu'on y revient peu hein, sur les espaces ouverts quand même. C'est un modèle qui perdure dans les entreprises, ce modèle à l'américaine, ça a quand même bien pris, même si ça représente pas mal d'inconvénients, voilà, la fatigue, la déconcentration. Donc on donne encore aujourd'hui, on a besoin de donner des bons outils pour que ça se passe bien.
On a besoin de donner les bons outils. Alors après, c'est pas que pour vivre en open space, c'est vraiment dans les nouveaux modes de travail. On aménage de nouveaux espaces. Typiquement, on va avoir des cabines téléphoniques, des espaces qu'on se dit brainstorming ou mode projet, des salles de réunion classiques, des salles de deux, des salles avec des écrans, pas d'écran.
Il faut investir, il faut que l'employeur investisse là-dedans.
Il faut investir. Après, on peut faire exactement avec le matériel qu'on a et réaménager avec ce qu'on a actuellement.
Le jeu, c'est le meilleur canal pour faire passer ces informations, ces messages.
Oui, parce qu'en fait, c'est des sujets de bon sens, de communication et faire des jeux de rôle, se mettre autour d'un plateau de bureau classique, ça permet vraiment d'échanger sur les différents sujets qui peuvent parfois un peu crisper. Comme je disais, typiquement le coup de téléphone. On le met sous mode défi, on discute, on échange, on se met d'accord sur quelles règles on veut quand le téléphone sonne.
Combien d'adeptes aujourd'hui ?
On a une dizaine d'entreprises et qui ont déjà adhéré au jeu, ça fait un an qu'il existe. Ça marche assez bien, on a des très bons retours.
Donc on y joue entre collègues ou c'est vraiment le manager qui doit organiser des sessions ? Enfin,
ça peut être entre collègues, entre managers qui veulent définir les règles de vie dans leurs espaces, au sein d'une équipe. Ça peut être également les relations sociales qui veulent voir comment est-ce qu'on peut vivre dans des espaces en flex office ou autre.
Ça coûte combien, le jeu ?
Bonne question, je vous invite à m'appeler pour que je réponde à cette question. Ça va dépendre de est-ce qu'on est dans un processus projet de A à Z, est-ce que vous voulez uniquement faire un seul jeu, est-ce que vous en voulez 10.
D'accord.
On va pouvoir un peu ajuster à ça, donc je vous invite à
On va sur votre site pour trouver les coordonnées.
Voilà,
j'imagine,
c'est ça.
Chez Parella. Merci beaucoup d'être venu aussi nous présenter cette innovation. Parfois, ça peut être ludique. Merci, Élise Henriet, chez Parella, d'être venue dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête là, mais pas d'inquiétude. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous retrouvez cette émission dès à présent en replay, en podcast sur RMC BFM Play. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. Reste en contact sur notre adresse mail. Vous n'hésitez pas à nous écrire pour nous proposer des sujets à porter des témoignages. L'adresse s'affiche en bas de l'écran pour ceux qui nous suivent à la télévision. happyboulot@bfmbusiness.fr. D'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.